RCF.
Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce lundi pour le premier magazine régional de la semaine, 18h10-19h, on est ensemble pour vous accompagner sur RCF Reims-Ardennes, RCF Cœur de Champagne, sur RCF Champagne-Ardennes avec le DAB+. D'ailleurs, à signaler dès le début de cette émission, suite à une panne technique sur l'émetteur de Chalon et Épernay, RCF Cœur de Champagne a des soucis pour émettre, peut-être que vous êtes sur la route entre Reims et Chalon en Champagne, et bien voilà, si habituellement vous avez l'habitude d'écouter RCF Cœur de Champagne, vous pouvez retrouver vos programme préféré en passant par l'application ou par le site rcf.fr en sélectionnant votre radio RCF Cœur de Champagne. Si vous êtes avec nous, ne touchez plus à rien, la soirée va être exceptionnelle. Les nouveaux enjeux en Amérique latine, c'est l'objet de la chronique Regard sur le monde proposée par Claude Ruiz dans quelques instants. On ira à la rencontre d'un maire ce soir, il s'agit de Patricia Durin, maire de Léry dans la Marne. Ce sera la rencontre que l'on fera juste avant le journal régional de 18h30 où l'on reviendra bien évidemment sur les sénatoriales 2023. Vous le savez, trois nouveaux sénateurs ont été élus hier dimanche dans le département de la Marne. C'est là qui a été renouvelé par moitié. D'autres rencontres, on en fera ce soir avec notamment le témoignage d'un JMJiste 7 semaines après les journées mondiales de la jeunesse au Portugal. Que retiennent-ils? Ça sera l'occasion d'en savoir un petit peu plus des nouvelles de nos églises. On en donnera aussi à travers la conférence Église verte du 27 septembre organisée à la basilique Saint-Rémy de Reims dans le cadre de la neuvaine de Saint-Rémy que l'on vit actuellement dans le diocèse de Reims et des Ardennes. Béatrice de Montmarin et Christian Evernot, seront avec nous pour en parler. Et puis enfin, d'émission, nous serons avec Éric Persan, nouveau directeur du lycée Frédéric Ozanam du côté de Chalon. Voilà pour le programme de votre magazine régional le 18-19 en Champagne. Et à 18h12, on commence ce lundi par la chronique. Regard sur le monde avec Claude Ruiz qui nous rejoint en studio. Bonjour Claude.
Bonjour.
On avait parlé la semaine dernière des pays BRICS. On va les rejoindre encore un petit peu aujourd'hui avec une rentrée très géopolitique en Amérique latine. Changement de continent, cependant, dans une période où l'on s'interroge sur la redistribution des cartes au niveau mondial, où les échéances électorales sont scrutées attentivement. Vous vous questionnez à propos d'une rentrée très géopolitique, donc en Amérique latine. Claude Ruiz, de quoi s'agit-il?
Oui, ben vous avez raison. La semaine dernière, nous avons parlé des BRICS. Alors, à l'intérieur des BRICS, c'est la première lettre, c'est B, c'est Brésil. Donc, c'est important de ce groupe qui essaye de mettre en place ou du moins d'influencer une sorte de nouvel ordre mondial qui cherche une sorte de cohérence, si vous voulez, face un petit peu à l'Occident. Et au-delà du Brésil, on sait très bien que la dernière réunion des BRICS a proposé à de nouveaux pays de rentrer, et dont un pays en Amérique latine, l'Argentine, plus peut-être le Chili. Vous le voyez, on est dans quelque chose qui se met un petit peu en place. Alors, ça pousse à observer, bien entendu, l'Amérique latine, et c'est vrai qu'elle va connaître toute une vague d'échéances politiques fortes. La première, c'est très bientôt en réalité, ce sont les élections argentines, puisqu'il y a 2 tours aux élections argentines au niveau présidentiel. Il y en aura un le 22 octobre et le second tour le 19 novembre.
Petite remarque, un mois pour faire 2 tours, ça paraît assez éloigné par rapport à ce que l'on connaît chez nous ici en France.
Oui, mais les institutions, on n'a pas le temps de montrer toutes les institutions de tous les pays. Ce sont souvent des institutions très complexes où on a essayé de mettre, je dirais, à la fois de la démocratie, mais avec plein de systèmes de protection à l'intérieur, ce qui fait que ça donne quelque chose d'assez lourd dans la réalisation. Et bien entendu, pour cette Argentine, il y aura une bipolarisation traditionnelle, mais cette bipolarisation traditionnelle, elle est peut-être remise en cause. Pourquoi? Parce que, on va dire, c'est simple, en Argentine, depuis 1945, c'est soit d'un côté le centre-gauche autour, vous le savez, de ce personnage à la fois réel, mais qui a débouché sur presque un élément mythique qui est le péronisme, Juan Perón, qui était le dirigeant argentin. Alors, l'héritier de ce péronisme, pour l'instant, il s'appelle Massa et il a en gros 28% des intentions. Et puis, il y a la droite traditionnelle qui a seulement 21% des intentions. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir un troisième personnage et on l'a vu apparaître. Il s'appelle Javier Milei. C'est je dirais une sorte d'anarcho-libertarien, ultra-libéral, l'État minimal, et assez proche sur le plan culturel de l'extrême droite. Il a signalé que pour lui, la justice sociale, c'est une ineptie. Voilà, ça vous donne le personnage. Mais ce personnage, comme dans d'autres aspects, il peut être présent au second tour.
Cependant, Claude Ruiz, on a parlé des échéances. Ça veut dire qu'il y en a d'autres. Quelles sont-elles ?
Alors, tous les grands pays dont on peut mettre en évidence qu'ils peuvent jouer un rôle en Amérique latine, vous avez bien entendu le Venezuela. Et le Venezuela, qui a une position, vous le savez, à part, qui s'est fortement, avec Maduro, opposé aux États-Unis. Et là, on retrouve, en fin de compte, un opposant au dirigeant Maduro, mais on ne sait pas si l'élection sera aussi nette que ça, puisque là, en réalité, il y a des oppositions, je dirais, géopolitiques fortes. Mais le Venezuela, pays connu surtout comme producteur de pétrole, est donc en jeu. C'est quelque chose à mettre en évidence. Puis il y a l'Équateur, où la gauche peut s'imposer. Le Chili, où on va avoir un référendum sur une nouvelle constitution. Vous savez que le Chili avait une constitution, cette constitution qui était issue, en fin de compte, de l'ensemble de la présence du général Pinochet au pouvoir. Et donc, on se dit, il faut une nouvelle constitution, on a changé les hommes, on a changé les pratiques, il faut changer une nouvelle constitution. Et ça crée des tensions. Et puis le Mexique, où le président qui est au pouvoir actuellement, López Obrador, il ne peut pas se représenter. Donc ça, bien entendu, ça va remettre en cause le système et on risque d'avoir une opposition donc entre, on va dire, droite et gauche. Et c'est un peu exceptionnel puisque les candidates sont deux femmes, ce qui est assez rare dans un pays considéré comme des plus machistes au monde. Hein. D'un côté, la vice-présidente actuelle, qui serait la continuité d'Obrador, qui s'appelle Claudia Sheinbaum. Et puis d'autre part, à gauche, une femme relativement jeune qui représente un petit peu l'indianité, hein, le monde indien mexicain, qui s'appelle, comme son prénom l'indique, Xochitl Galvez. Et là, on a une première. Mais il y a d'autres pays, comme le Salvador aussi, qui va changer de personnage politique.
Au moment où l'on évoque plusieurs changements, qu'en est-il du Brésil de Lula ?
Ben, le Brésil de Lula, qui est le premier pays sur le plan économique. Hein, quand on regarde sur le plan économique, c'est un Brésil, en Amérique latine, deux Mexique, trois Argentine. Hein, voilà les grandes puissances, on va dire.
C'est le triangle.
Voilà, en fois démographique et...
En économie aussi.
Voilà, sur le plan du jeu au niveau international. Donc, le Brésil, lui, pour l'instant, par l'intermédiaire surtout de Lula, rejoue un rôle international plus important. On a dit BRICS, hein, en commençant l'émission. Et donc là, ils sont assez favorables à l'entrée de nouveaux membres dans ces BRICS. Donc, je dirais, le Brésil, son rôle, c'est de dire à l'Argentine et au Mexique, venez avec nous. Hein, plus on est de fous, plus on rit. En réalité, on peut jouer un rôle. Et bien entendu, le Brésil réclame un poste au Conseil de sécurité et il aura peut-être l'appui des BRICS. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est assez fort puisque je vous rappelle que pour accéder à une mutation, si vous voulez, de l'ONU et avoir au Conseil de sécurité de nouveaux pays, pour la première fois, la Chine a donné son appui à un nouveau pays. Et ce nouveau pays, c'est le Brésil. Donc, vous voyez, une diplomatie globale, hein, et des liens au niveau international qui sont forts. Donc, le Brésil, c'est un peu l'élément stable, au moins dans les prochains mois.
Avec des questions qui restent en suspens, Claude Ruiz, cette succession d'élections peut-elle changer la donne, peut-être au niveau international ?
Alors, on va prendre un petit peu du recul parce que là, toutes ces élections ont un côté très national, hein, vous comprenez bien. Tous ces pays ne jouent pas un rôle sur la scène mondiale. Pour les États, il y a des objectifs très différenciés. Au niveau international, ben, il faudra voir s'ils peuvent jouer un rôle pour, on va dire, pousser certains représentants d'Amérique latine à aller plus loin dans les instances internationales. Donc, une affaire à suivre, mais il y a beaucoup d'élections.
Merci Claude Ruiz de nous avoir éclairé, d'avoir regardé sur le monde avec nous aujourd'hui. Et puis, avec toutes les échéances qui arrivent, on aura certainement l'occasion d'y retourner durant cette saison 2023-2024 du côté de l'Amérique latine. À très bientôt Claude Ruiz.
Au revoir.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et on ne perd pas les bonnes habitudes que l'on a prises dans ce magazine régional. Près d'un mois après la rentrée, vous le savez, tous les jours, tous les soirs, on vous emmène à la rencontre d'un maire d'une commune. Et quand je dis on vous emmène, c'est plus spécifiquement Jean-Pierre Benoît qui part à la rencontre d'un maire près de chez vous. Ce lundi, nous sommes avec Patricia Durin de Léry. L'entretien, évidemment, c'est au micro de Jean-Pierre Benoît.
Patricia Durin, bonjour.
Bonjour Monsieur Benoît.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour présenter votre action et surtout celle de la commune de Léry. Alors pour nos amis des Ardennes en particulier, pouvez-vous nous dire où se trouve exactement Léry et combien y a-t-il d'habitants à Léry ?
Alors Léry est une commune dans la Marne qui est située à 23 km à l'ouest de Reims et qui est dans le Tardenois. Alors le village de Léry, on le voit quand on prend l'autoroute de Reims à Paris. Il y a une aire d'autoroute qui s'appelle l'aire de Léry, donc qui est sur notre commune. Donc voilà, on peut peut-être un peu mieux la situer.
Alors justement, puisque vous parlez de l'autoroute, Patricia Durin, on se dit au fond, quand on est à la ville, à Reims ou ailleurs, et qu'on voit des beaux villages comme les vôtres, est-ce qu'on n'a pas envie d'habiter à Léry ? Est-ce que vous avez senti, depuis quelques années, le besoin d'un certain nombre d'habitants de venir s'installer, d'habiter dans votre commune ?
C'est vrai qu'avec le Covid, on a vu plus d'habitants revenir sur nos communes et on voit effectivement des habitants de la ville qui viennent chercher la tranquillité dans nos petites communes. Mais il faut savoir qu'on est une commune très rurale, on a peu de maisons disponibles. Il y a quelques constructions, il y a une construction en cours et on n'a que 89 habitants. Il n'y a pas de commerce, donc on est vraiment très au calme.
Oui, voilà. Mais c'est quand même, Patricia Durin, un beau village, un beau cadre de vie, Léry. C'est quand même agréable. Et vous-même, qu'est-ce qui a fait un jour que vous avez souhaité être maire ? Ça fait partie de votre ADN ?
Alors, je dirais que la politique m'a toujours intéressée. J'étais dans une famille avec un papa qui était conseiller municipal à Reims. Dès l'âge de 18 ans, j'ai tenu des bureaux de vote à Reims. Et quand je suis arrivée dans cette commune de Léry en 83, bon, j'ai pas été tout de suite conseil, mais au fil de l'eau, dès 2000, je suis rentrée au conseil en tant que première adjointe. Mon mari avait déjà un mandat. Et puis, j'ai fait deux mandats de premier adjoint et en 2014, j'ai été élue maire. Alors, pourquoi je dirais que ça m'a attirée être maire d'une petite commune ? Parce que on est sans étiquette, on ne dépend pas d'un parti et on est au service de tous les habitants. Et je ne voulais pas faire de la politique en étant, encadrée ou on m'impose un peu, des idées. Je suis au service de tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant quand on est maire d'une petite commune.
Et vous les connaissez, vos habitants ?
Ah bah oui, quand même. Vous savez, il y en a 89, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc effectivement, habitant dans le village depuis 83, effectivement, je les connais.
Ça fait partie, ça fait une grande famille avec aussi, on peut le dire parce que les maires nous le disent dans chaque émission, parfois ils se font quand même interpeller souvent des gens qui de plus en plus, pas à Léry, je ne parle pas de Léry, mais dans des communes où ils rouspètent, comme disait Gérard Larcher, le président du Sénat, on est à portée d'engueulade et les gens vous disent mais oui, et là, il y a le goudron qui n'est pas fait, il y a ça qui n'est pas fait. Bon, vous devez aussi faire face à quelques récriminations, même si beaucoup de gens sont contents.
Alors, tout à fait. En fait, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a, un grand individualisme des habitants. Et puis, dans nos petites communes, comme les nôtres, il y a des familles qui sont des agriculteurs, des viticulteurs, qui ont toujours vécu dans ces communes, avec certains désagréments, on ne peut pas le nier. Vous savez, en période de moisson, en période de vendange, ça fait du bruit, il y a des tracteurs qui passent. Et les nouveaux habitants qui arrivent veulent absolument le calme. Donc, c'est pas toujours, il faut faire comprendre à tout le monde ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Voilà. Par exemple, une des choses qui est le moins facile, c'est de faire respecter à tout le monde qu'on peut pas tondre à n'importe quelle heure. Voilà. Son jardin. Pas le dimanche après-midi. Voilà. Donc, le maire, oui, a parfois, doit aller voir ses habitants, doit faire, la police, oui. Ça fait partie de nos missions. Pour que tout le monde vive sereinement ensemble.
Alors, Patricia Durin, c'est vrai aussi, alors d'un mot, il y a aujourd'hui le Grand Reims. Est-ce que le maire est quand même le patron ? Est-ce que vous êtes la patronne quand même dans votre village ? Est-ce que le maire, c'est quelqu'un quand même qui continue d'être reconnu ?
Ah, tout à fait. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre commune, on était dans une intercommunalité où il y avait déjà beaucoup de compétences qui étaient au niveau de l'intercommunalité du Tardenois. Donc, passer dans le Grand Reims n'a pas changé.
Ça s'est fait naturellement.
Voilà, ça s'est fait naturellement. On était déjà habitués à discuter de projets, lesquels on priorisait, sur quelles communes, etc. Donc, on est notre patron à partir du moment où c'est nous qui devons, avec nos habitants, déterminer les projets qu'on met en avant, ce qu'on fait ou ce qu'on demande au Grand Reims de faire pour nous. Donc, on reste tout à fait notre patron. Et vis-à-vis des habitants, bah, ils viennent nous voir, nous, le Grand Reims, certes.
On commence par vous.
Énormément. Voilà, on commence par nous et c'est nous qui en montons derrière.
Avez-vous des projets, je vous interromps, Patricia Durin, et le temps passe vite, il nous reste 3 minutes, mais des projets en cours qui viennent d'être achevés ou des projets à moyen ou à court terme pour la commune de Léry?
Alors, il y a eu un gros projet qui avait été fait, qui s'est terminé en 2019, c'est la restauration de l'église. Et ça, c'est grâce au Grand Reims. Bon, on avait une église cassée, donc on a pu faire refaire. Là, on a en cours des travaux qui sont la rénovation d'une rue qui est programmée normalement en 2024-2025, la restauration complète d'une rue. On a la végétation d'un cimetière, on a fait des petits travaux d'aménagement dans notre mairie. Donc, on fait des choses.
Alors, évidemment, la question qu'on pose souvent et qui refroidit un certain nombre de gens qui refusent maintenant d'être maire, c'est concilier la vie familiale avec le fait d'être maire ou la vie professionnelle. Vous avez réussi.
Alors, moi, j'ai réussi, mais moi, maintenant, je suis retraitée. Donc, c'est beaucoup plus facile. C'est vrai que pendant un mandat, je travaillais encore. Le premier mandat, je l'ai fait en travaillant. Le deuxième, je suis à la retraite pour pouvoir faire plus de choses. Et bon, quand on vit sur le territoire, oui, on arrive à concilier les deux. Bon, mais effectivement, ça prend un peu de temps. Surtout quand vous êtes une petite commune comme la nôtre, on a une secrétaire un après-midi par semaine. Donc, on gère beaucoup de choses avec son adjoint, donc on est en prise directe. Oui.
Comment s'appellent les habitants de Léry?
Alors, je crois qu'ils n'ont pas de nom. On dit les habitants de Léry, je ne l'ai jamais trouvé, on m'a déjà posé la question.
Ah bon?
Et je n'ai pas la réponse. Voilà.
Eh bien, on va lancer un concours sur RCF, parce qu'on est appelé à se revoir, Patricia Durin. Vous savez, 250 maires dans l'année, il va falloir que j'en fasse tourner un certain nombre, et puis même dans d'autres émissions. Pour terminer, une question que je pose à chaque maire. Êtes-vous une mère heureuse? Est-ce que vous êtes contente d'être mère?
Oui. Et je dirais que aujourd'hui, alors c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours, mais on peut faire quand même beaucoup de choses. On fait partie d'un Grand Reims qui nous permet de faire beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu faire sans Grand Reims. Et je dirais que même si c'est pas tous les jours facile, oui, je suis une mère heureuse.
Merci en tout cas Patricia Durin, on aura l'occasion de vous retrouver. Rappelons que vous êtes maire de Léry dans le département de la Marne et que vous étiez notre invité. Votre maire nous parle, vous nous avez parlé franchement et nous sommes heureux de vous retrouver certainement dans quelques semaines sur l'antenne de RCF. On vous souhaite une très bonne journée Patricia Durin.
Merci de votre interview. Et à très bientôt. Au revoir, monsieur.
À très bientôt sur RCF.
Ou plutôt une bonne soirée, Jean-Pierre Benoît. Merci pour cette rencontre avec Patricia Durin, maire de Léry. Demain, je crois qu'on ira du côté de Ballan avec Alban Collinet, puisqu'il nous avait même parlé que son prénom était un anagramme de la commune dont il est maire. Alban, Ballan, vous changez les lettres, vous mélangez l'ordre et vous retrouvez voilà ces deux mots. Je vois que Thierry Delis apprécie. C'est pour vous donner quelques rendez-vous. Voilà pour demain. D'ailleurs, d'autres rendez-vous sur l'antenne de RCF cette semaine. C'est mercredi sur RCF Reims-Ardennes à partir de 14h30, la messe des malades qui sera diffusée en direct et en intégralité depuis la basilique Saint-Rémy. Évidemment, dimanche, la messe de Saint-Rémy depuis la basilique également, avec l'illumination de la couronne aux 96 bougies, la procession de la chasse. Tous ces temps forts seront à vivre en direct et en intégralité sur RCF. Le rendez-vous dimanche, c'est à partir de 16h. Jean-Pierre Benoît sera sur place, j'y serai également, Thierry Delis, Fabrice Gironnet, toute l'équipe de RCF sera à disposition de vous, les auditeurs. Et puis, on le rappelle, si vous n'étiez pas avec nous en début d'émission, peut-être que aujourd'hui vous avez eu des difficultés pour nous capter du côté de Chalon ou d'Épernay suite à une panne technique sur les émetteurs. Eh bien voilà, si vous êtes sur la route et que vous rentrez du côté de Chalon ou d'Épernay, vous pouvez retrouver pour le moment les programmes de RCF Cœur de Champagne en vous connectant sur le site internet www.rcf.fr en sélectionnant votre radio RCF Cœur de Champagne. 18h30, je vais devoir respirer, je relance le jingle. Voilà, ça va mieux. Les titres de ce lundi 25 septembre. À Reims, 3 des 10 tapisseries de la vie de Saint-Rémy sont de retour au musée Saint-Rémy depuis quelques jours. Les autres y reviendront d'ici 2025 après avoir été restaurés. En football, 3 perd encore ce week-end face à Auxerre. Retour sur la rencontre.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Le Sénat a été renouvelé par moitié hier. Dans la Marne, 1600 grands électeurs avaient rendez-vous aux urnes ce dimanche. Alors qu'aucun sénateur sortant ne se représentait, rien n'était joué d'avance pour les candidats en lice. La liste de l'Union de la droite et du centre, conduite par le président du département de la Marne, Christian Bruyen, a recueilli plus de 43% des suffrages, ce qui permet à Anne-Sophie Romani, de la même liste, d'être aussi élue sénatrice. Christian Bruyen en ligne avec Christopher Fausten.
Ce sont des résultats satisfaisants. Nous passons à deux de notre liste de la droite et du centre, à savoir moi-même et Anne-Sophie Romani. C'était un contexte un peu plus compliqué qu'il y a 6 ans, puisque voilà, il n'y a aucun sortant, et puis parce que aussi la position de quelques grands élus de la Marne n'était cette fois pas favorable à cette liste de la droite et du centre. Mais voilà, c'est un résultat qui est conforme aux projections et ça nous va bien. C'est le début d'une nouvelle aventure, et c'est vrai que voilà, ça fait 28 ans que je suis élu local. J'ai été élu au niveau municipal, au niveau intercommunal, au niveau départemental. Et là, je vais pouvoir, j'espère, faire en sorte que cette expérience acquise au fil des 3 décennies, eh bien, elle me permette de défendre la ruralité, les collectivités locales au sein de cette assemblée du Sénat.
Cédric Chevalier, qui conduisait lui une liste Horizon, qui a récolté un peu plus de 31% des suffrages, est aussi élu. Il confiait au micro de Jean-Pierre Benoît assumer un changement de braquet pour lui, l'élu local, qui devient un élu national.
C'est un changement de braquet parce qu'on est sur une dimension bien sûr nationale, mais avec une volonté quand même de rester au plus proche des réalités, puisque la campagne électorale l'a montré. Il y a une forte attente de l'ensemble de nos collègues maires, des élus locaux, adjoints, sur le rôle du Sénat, et donc cette volonté bien sûr de travailler sur Paris à faire la loi, mais surtout de pouvoir accompagner l'ensemble de nos élus et modifier pour leur permettre un épanouissement total dans leur mandat.
Il faut dire, Cédric Chevalier, que vous n'êtes pas un élu hors sol, vous êtes maire de Saint-Léonard, une petite commune, mais c'est important d'être tout de même enraciné dans un terroir. Vous faites remonter toutes ces idées du terroir sur le plan national.
Oui, tout à fait. Et je suis en charge également du PLUH et du SCOT sur le Grand Reims, qui m'amène à voir notamment les 143 communes, de pouvoir échanger avec elles sur leur vision, sur leurs attentes du territoire. Et ça permet d'être véritablement ancré dans les soucis que peuvent rencontrer les différentes communes, qu'elles soient d'ailleurs viticoles, agricoles, urbaines. Et je crois que c'est nécessaire lorsqu'on veut à un moment donné pouvoir participer à la loi, d'avoir une vraie vision du territoire, parce que le hors-sol ou le déconnecté peut faire énormément de dommages à l'ensemble des acteurs, et notamment ceux qui sont en première ligne, ou en tout cas le bout de la chaîne au plus proche de nos concitoyens, à savoir les maires.
Dans les prochains jours, quel est votre programme? Vous allez regagner le Sénat dans quelques heures, dans quelques jours?
Alors, dès demain matin, je serai effectivement à Paris pour rentrer au Sénat et bien évidemment faire toutes les démarches administratives ainsi que le choix des commissions, des groupes pour pouvoir être opérationnel le plus vite possible. Et la semaine prochaine, nous aurons bien évidemment l'élection du président du Sénat. C'est un rythme qui va s'accélérer avec un certain nombre de lois qui vont arriver aussi au Sénat pour examen. Donc il y a toute une organisation à mettre en place pour pouvoir travailler sur ces deux jambes, le local et le national.
Une analyse des résultats des élections sénatoriales proposée par Hervé Chabot est disponible dans la rubrique Programme sur le site rcf.fr en sélectionnant votre radio RCF Reims-Ardenne. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine le week-end dernier, le musée Saint-Remy de la ville de Reims a retrouvé de vieilles connaissances. 3 tapisseries de la vie de Saint-Remy datées de la Renaissance ont fait leur retour dans les lieux après avoir été restaurées alors qu'elles avaient été décrochées en 2017. Pierre Mass, directeur de la manufacture royale de Huit en Belgique, nous présente les étapes.
Alors, le nettoyage se passe en effet sur une journée grâce à l'installation que nous avons développée. Nous avons la possibilité en fait de nettoyer une tapisserie du début du nettoyage jusqu'à son séchage complet en une journée de travail de 8 heures. On va mettre la tapisserie sur une grande table aspirante dans son entièreté. L'aspiration va permettre de fixer la tapisserie en place et ensuite on va créer un aérosol au-dessus de la tapisserie qui va être aspirée à travers la tapisserie. La consolidation, c'est une étape qui est beaucoup plus longue, qui demande beaucoup de patience. C'est un travail manuel qui demande beaucoup de calme et de patience, en effet. On va consolider la tapisserie sur son revers à l'aide de textiles sur lesquels on va appliquer des lignes de consolidation, des lignes de couture qui vont permettre de renforcer les zones fragiles et de rendre à la tapisserie sa solidité. Nous allons placer un système d'accrochage à la fois sur la tapisserie et dans les salles d'exposition, de façon à pouvoir accrocher la tapisserie avec des bandes autogrippantes qui vont permettre à la fois de décrocher et d'accrocher les tapisseries sans aucune tension néfaste pour le textile.
Pour les mettre en valeur, le musée Saint-Remy a aménagé une nouvelle salle avec une scénographie adaptée. Bénédicte Ternu, directrice des musées historiques de la ville de Reims.
Oui, voilà, exactement. On devait revoir aussi toute la salle qui permettait d'accueillir ces tapisseries, parce que faire une restauration sans adapter toute la salle qui vont les accueillir ne servait à rien. Donc là, effectivement, le public va découvrir un nouveau musée, j'ai envie de dire, une nouvelle salle des tapisseries au musée Saint-Remy, avec une vision totalement différente de ce qu'il connaissait précédemment. Alors, cette scénographie est surtout liée à de nouvelles couleurs qui vont permettre de mettre en valeur les tapisseries et puis surtout un nouvel éclairage qui ne se voit pas, mais qui met en valeur réellement les scènes qui sont présentées sur les tapisseries.
Si pour le moment 3 sont déjà revenus, les 10 devraient être installés d'ici le printemps 2025. À Charleville-Mézières, le rideau est tombé sur la 22e édition du Festival mondial des théâtres de marionnettes hier soir. Une édition record en termes de fréquentation, 93% de taux de remplissage des spectacles en salle, 155 000 festivaliers estimés. La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, qui devait se rendre à la cérémonie de clôture hier, n'a finalement pas pu venir, touchée par le Covid. Cependant, une subvention complémentaire de 50 000 euros a été accordée à l'Institut de la marionnette pour 2023. Pour les années à venir, ce sont 30 000 euros en plus chaque année qui ont été promis à l'Institut et 60 000 euros annuels pour le festival. Parmi les rencontres sportives du week-end, il y avait en football de la Ligue 2 samedi après-midi. Troyes recevait Auxerre. Christopher Fausten était sur place.
Relégués tous les deux la saison dernière, Troyes et Auxerre se sont retrouvés samedi dernier au Stade de l'Eau pour le compte de la 7e journée de Ligue 2. L'Estac a tremblé dans les dernières minutes contre des Auxerrois agressifs. Elle s'incline finalement 2-1 après avoir montré un trop faible visage, notamment en première mi-temps. Réaction de Patrick Kinorbo, coach de l'Estac, traduit par l'attaché de presse du club, Florent Nyanga.
C'est encore un match à deux faces avec une première mi-temps. Il faut le reconnaître qui n'a pas été bonne. La deuxième mi-temps était bien meilleure, mais malheureusement ce deuxième but encaissé en toute fin de match change beaucoup de choses. Je pense moi-même qu'on avait la place pour marquer nous-mêmes un deuxième but pendant cette seconde période. Malheureusement ça s'est pas fait. Donc on doit encore travailler sur ces choses-là, gagner en consistance, pouvoir faire 90 minutes de la même façon. On doit pouvoir réussir à travailler aussi pour passer devant et pour gagner ces matchs.
After the second half was really good, is disappointing.
Face aux blessés et cette jeune équipe auboise, le coach ne se montre malgré tout pas inquiet de la situation qui, je cite, ne se joue pas à grand chose. Une victoire et 4 nuls en 7 rencontres, l'Estac se positionne à la 15e place de ce championnat de Ligue 2.
Réaction attendue donc pour les Troyens, ça sera dès demain 20h45 sur la pelouse de Rodez. Les matchs s'enchaînent. En Ligue 1, le Stade de Reims disputera la 6e journée initialement jouée ce week-end demain à 21h. La rencontre a été décalée en raison des matchs de la Coupe du Monde de rugby qui se déroulent au Stade Pierre-Mauroy du côté de Lille. Parmi les autres résultats majeurs du week-end, le Champagne Basket entrait en Leaders Cup Pro B à Rouen vendredi soir et s'est imposé 83-80. La deuxième journée du tournoi, c'est déjà demain à Renétis. Les Flammes Carolo ouvraient, elles, samedi soir la saison de Ligue Féminine de Basket dans un match maîtrisé. Les Ardennaises ont dominé Charnay 92-75. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Et à 18h39, cette semaine après, RCF vous propose de revivre les Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne avec Christopher Fausten et l'un des jeunes du diocèse de Châlons.
De retour le 7 août dernier, les yeux et le cœur remplis d'étoiles, la pastorale des jeunes du diocèse de Châlons rend grâce pour tant de merveilles. Vincent Compagnon, 26 ans de Châlons-Champagne, a participé pour la seconde fois au JMJ, un pèlerinage riche en émotions et en rencontres.
C'est riche en rencontres et c'est des moments qui sont assez intenses puisqu'on ne fait qu'enchaîner entre moments de prière, moments de joie et puis découvrir les autres tout simplement. S'il y avait une chose que je retiendrais en plus, c'est peut-être la proximité sur un des positionnements où on voit le pape arriver pile en face de nous et à ce moment-là, on avait un petit groupe qui était en face de nous qui s'était retiré. Et donc, on se retrouve pile devant les grilles et avec le pape qui arrive droit sur nous. Quand on est à 1,5 million, on n'a pas forcément toujours la place de bien le voir et on se sent un peu privilégié quand on est face au pape. Quelque chose que j'ai trouvé assez phénoménal, c'est le fait qu'on était plus de 45 000 Français présents sur ces JMJ, notamment à la veillée des Français où on était 41 000 présents. Et c'est assez agréable de voir qu'il y a autant de jeunes en France qui sont chrétiens, qui croient en Dieu, qui se sont déplacés spécialement à ce moment-là, avec une interview de Giroud, c'est toujours sympa, et de se dire, bah voilà, on n'est pas tout seul au final, et qu'il y a des choses qui sont quand même super sympas, et qui peuvent être vécues, et qui peuvent être réalisées.
Vincent Compagnon nous explique désormais la raison de sa deuxième participation après les JMJ de Pologne en 2016.
C'est d'être avec un groupe, avec le pape, avec le Christ, de le prier. Et les JMJ, je pense que c'est le meilleur moment et le meilleur endroit qui rassemble tout ça pour passer un moment juste extraordinaire.
Vincent revient sur ce grand pèlerinage à Lisbonne avec l'ensemble des jeunes du diocèse de Chalon.
On était une cinquantaine à peu près de jeunes. On venait un petit peu tout autour du diocèse de Chalon, donc il y en avait deux, trois qui étaient de Reims, il y en a qui étaient sur Vitry, il y en a qui étaient sur Cézanne. Il y a aussi beaucoup d'étudiants qui sont de Chalon, mais qui font leurs études sur Paris ou dans d'autres endroits en France. Lorsqu'on part en pèlerinage sur les JMJ, il y a un groupe qui vient sur la deuxième semaine parce qu'ils ne pouvaient pas profiter de la première. Tout le monde n'avait pas pu être présent forcément sur les préparations de ces JMJ. Du jour au lendemain, les gens qu'on n'avait jamais rencontrés ou qui nous avaient jamais vus, pour eux, c'est un petit peu le premier pas où ils viennent se présenter, ils viennent nous rencontrer ou inversement. Et ils sont tout de suite très vite intégrés. Il y a énormément de prières, il y a énormément d'actions, de jeux, de mouvements, d'activités, de rencontres. On vit tout à 100 à l'heure et donc on se retrouve vite, nez à nez, avec chaque personne à discuter, à savoir ce qu'il fait, pourquoi il vient et à discuter, avoir une approche un petit peu différente qu'on pourrait avoir au quotidien. Et ça permet au final de connaître les gens comme si on les avait toujours connus, alors que pas du tout. Sachant qu'il y a des différences d'âge qui sont assez importantes, parce qu'il y en a, ils avaient peut-être 17 ans et demi, ils allaient sur leurs 18 ans, quand certains avaient un petit peu plus de la trentaine. Donc c'est d'autres expériences, c'est une autre manière de vie, de vivre. Ils sont dans d'autres moments de... Par exemple, il y a des jeunes pros et des jeunes lycéens. Et tout ça, en fait, ça permet d'avoir un mélange d'expériences, de voir aussi comment chacun prie, selon son âge, selon son activité, selon sa vie. Ça permet une très belle cohésion entre l'expérience pour certains, la folie pour d'autres. Et c'est quelque chose qui est assez agréable, parce que pour faire un beau voyage comme ça, il faut de tous les mondes.
Après cette aventure, place au partage au diocésain pour Vincent et l'ensemble du groupe.
Ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a créé un groupe, entre parenthèses, after JMJ, si on peut dire, où le but, c'est de repasser sur les paroisses qui nous ont déjà aidés, tout simplement. Ensuite, c'est de garder aussi contact entre nous et aussi de transmettre ce message-là. Donc, enfin, le message du pape et le message des JMJ. On a eu l'accès à quelque chose qui nous dépasse, qui était beau et qui était grand. Essaye pas de ne le garder que entre nous, mais aussi le transmettre aux autres. Pour ça, on a décidé de mettre plusieurs actions. On a prévu de se manifester un petit peu sur différents endroits avec nos marinières, nos pulls, qui étaient nos principaux symboles. Et on est en train de mettre en place une petite organisation pour aller sur plusieurs endroits et dire un petit peu notre ressenti, comment on a vécu nos JMJ.
Des images de ce pèlerinage à Lisbonne sont à retrouver sur les réseaux sociaux Chalon au JMJ Lisbonne 2023.
Le 18-19 sur RCF.
18h44 sur RCF, vous le savez, la Saint-Remi, c'est une fête tout à fait particulière, hein. C'est un moment tout à fait particulier de la vie du diocèse de Reims et des Ardennes que l'on vit cette semaine. Ce ne sont pas nos invités qui vont dire le contraire. Béatrice de Montmarin et Christian Hévernaud nous donnent rendez-vous pour parler conversion écologique mercredi 20h à la Basilique.
Christian Hiverneau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Béatrice de Montmarin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, il est vrai que nous allons vivre dans 48 heures. Ce sera le 27 septembre prochain, mercredi, à 20 heures, après la messe de 18h30. Si nous étions tous concernés par la conversion écologique. Alors, Christian Hiverneau, on est tous concernés par cette conversion écologique. C'est une idée avec Béatrice de Montmarin que vous avez un peu concoctée il y a quelques années, puisque vous avez le label Église verte à l'Église Saint-Mée.
Oui, tout à fait. Depuis que le pape a sorti l'encyclique Laudato Si, nous nous sommes interrogés sur nos façons de vivre. Alors, c'est vrai que l'encyclique Laudato Si a un titre, c'est la sauvegarde de la maison commune. La sauvegarde de la maison commune, ce n'est pas seulement de l'écologie, mais c'est aussi prendre en compte toute la dimension. Le pape parle d'écologie intégrale. L'écologie intégrale, c'est bien sûr avoir des comportements, je dirais, écologiques, des comportements sains, des comportements qui font attention à la planète, mais c'est aussi avoir trois dimensions. La dimension, donc, notre relation à Dieu, c'est-à-dire la création, on vit dans une création qui est donnée par Dieu. La deuxième, c'est nos rapports humains, nos rapports avec les gens, avec toutes les personnes, c'est-à-dire avec les personnes chez qui aussi on exploite, mettons, le lithium ou d'autres métaux qui dans des pays pauvres. Et puis la troisième dimension, c'est la dimension économique. Donc, en fait, le pape, c'est la première fois qu'une personne intègre ces trois dimensions dans une réflexion écologique.
Tout est lié, hein, on le dit souvent, et Laudato Si en est l'expression. Alors, Béatrice de Montmarin, Église verte Saint-Remy, vous avez ce label depuis plusieurs années, et votre groupe, depuis 2021, se mobilise sur les questions écologiques avec une dimension spirituelle, c'est bien ça?
C'est exactement ça. À la suite de la publication de l'encyclique Laudato Si, s'est créée une association Église verte en France, une association œcuménique. Et nous avons monté un groupe à Saint-Rémy, un tout petit groupe pour l'instant, afin de pouvoir... nous avions une double intention, d'abord celle de retravailler vraiment à fond cette encyclique afin d'en vivre nous-mêmes et de pouvoir partager ça avec d'autres. Et ensuite, à l'échelle de la paroisse, pouvoir proposer des projets, par exemple comme la rencontre de mercredi 27 dans la basilique, et ou bien de proposer des pistes d'amélioration dans la paroisse elle-même, vivre avec des produits plus recyclés.
On a le sentiment, Christian Hiverneau, Béatrice de Montmarin, que vous êtes passionné par cette question, mais vous voulez accompagner les hommes et les femmes qui nous écoutent ce matin, aujourd'hui, et qui se disent ben, « moi aussi j'ai envie de cheminer ». Vous voulez les accompagner dans ce cheminement. D'ailleurs, vous leur donnez rendez-vous le 27 septembre à 18h30 pour une eucharistie suivie d'un moment convivial. Et ensuite, il y a cette rencontre avec deux intervenants. Alors, j'ai envie de vous demander, Christian Hiverneau, ces intervenants, comment les avez-vous choisis? Quels sont-ils? Alors, ils s'appellent Arthur et Blandine Delassus, donc ils vont intervenir et ils vont nous aider tous à réfléchir.
Voilà, alors en fait, on a choisi Blandine et Arthur parce qu'en fait, c'est parti d'un cheminement. Ce n'est pas une conversion radicale, immédiate, etc. Mais c'est un jeune couple qui travaillait dans des grandes entreprises françaises et qui, lors d'un pèlerinage sur le chemin de Compostelle, se sont posé beaucoup de questions parce qu'ils ont pris le livre de Laudato Si, l'encyclique, et ça leur a posé beaucoup de questions. Et en fait, c'est des gens, du coup, qui ont cheminé. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qu'on veut faire aussi, ce qu'on veut vous proposer durant cette soirée-là, c'est qu'à la limite, chacun a son chemin. Eux, ils ont eu un chemin de conversion. Leur témoignage est intéressant, mais c'est pas le chemin de tout le monde. L'important, c'est d'avoir tous un chemin à faire dans une conversion écologique. Donc voilà ce qu'on veut proposer, c'est qu'à la limite, on va pas donner des solutions sur l'écologie. Ce qu'on va donner, c'est qu'on va donner des petits repères pour que chacun puisse faire une démarche, soit chez eux, soit des démarches qui ne sont pas impossibles à faire et qui ne demandent pas forcément une radicalité.
Ça veut dire, Béatrice de Montmarin, une démarche qui nécessite une forme d'intériorité, donc spirituelle, vous êtes en lien avec l'Église, diocésaine et même universelle, Et donc, chacun va à son rythme. C'est une forme de pèlerinage intérieur que vous essayez de faire en prenant en compte cette dimension écologique qui est de plus en plus présente, en particulier chez les jeunes. On le sent qu'avant, c'était un peu hors sol. Et on a l'impression maintenant que c'est vraiment la réalité presque du quotidien. Béatrice de Moirin.
Voilà. Et le label Église verte fonctionne ainsi, c'est-à-dire l'état des lieux est fait dans chaque communauté. Et après, chaque communauté choisit librement en fonction de là où elle en est et de ce qu'elle a envie de faire et de ce qu'elle peut faire. Et nous trouvons que c'est une belle démarche que nous proposons aux gens qui viendront. Voilà, prendre conscience et après avancer à son rythme.
Alors c'est mercredi, le 27 septembre, à 18h30, il y a l'Eucharistie, il y a un temps convivial, ensuite il y a cette rencontre. Comment cette soirée va-t-elle se dérouler? Vous pouvez quand même nous donner, je viens de le faire un peu, mais il faut le répéter pour nos amis qui sont en voiture, qui sont dans leur cuisine.
Alors, la rencontre elle-même, donc après la messe et le temps convivial auquel nous convions tous nos auditeurs, se déroulera d'abord avec le témoignage d'Arthur et Blandine, donc leur témoignage très personnel, et ensuite un assez bref temps de réflexion par petits groupes afin de faire émerger des questions, des commentaires, et puis ces questions seront reprises par nos intervenants. Voilà, et enfin nous présenterons effectivement notre groupe Église verte pour proposer.
Oui, parce que c'est peut-être aussi l'occasion pour vous, vous deux, Christian Hiverneau, Béatrice de Montmarin, d'agrandir votre groupe, de lancer un appel si vous avez des recrues.
Ah bah tout à fait, c'est pas forcément un groupe qui attire beaucoup parce qu'en fait les gens pensent qu'en fait tout de suite il faut avoir fait des démarches au niveau écologique, alors que non, en fait on a besoin de se nourrir de Laudato Si, de cette encyclique, parce que cette encyclique nous ouvre sur une dimension intérieure importante. En fait, tout démarche de notre propre cœur, de notre propre âme, en fait c'est redécouvrir une dimension avec la création, en fait, et pas seulement d'avoir des gestes, de faire du vélo ou d'acheter des habits de deuxième choix, etc.
Merci Christian Hiverneau, Béatrice de Montmarin d'avoir été au micro de Jean-Pierre Benoît. Le rendez-vous, c'est ce mercredi 20h à la Basilique Saint-Remy pour participer à cette conférence sur la conversion écologique.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Nouvelle dynamique pour l'ensemble scolaire Frédéric Ozanam de Chalon en Champagne, marquée par l'arrivée du nouveau chef d'établissement Éric Persan, l'occasion pour Christopher Fausten de partir à sa rencontre.
Éric Persan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le nouveau chef d'établissement au lycée Frédéric Ozanam à Chalon-Champagne. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui dans les studios de RCF Cœur de Champagne. Vous avez pris vos fonctions tout récemment pour cette rentrée scolaire. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de votre fonction et de nous faire découvrir un petit peu le lycée Frédéric Ozanam, parlez-nous un peu de vous. Vous êtes meusien d'origine.
Oui, tout à fait. Je suis né en Meuse. Mes premières activités professionnelles se sont passées en Meuse. Je suis devenu professeur de sciences économiques et sociales dans l'ensemble scolaire Jean-Paul II de Bar-le-Duc. J'y suis devenu directeur adjoint et en 2001, j'ai été appelé à devenir directeur adjoint en Haute-Marne, à Saint-Dizier exactement, à l'Estique. Et c'est mon entrée en Champagne-Ardenne, puisque je vais quasiment plus quitter la Champagne-Ardenne pendant toute ma carrière, puisque je vais être 2 ans directeur adjoint de l'ESTIC, je vais être 7 ans ensuite chef d'établissement à l'ESTIC pour en 2010 devenir chef d'établissement à Reims du lycée Jean 23 à Reims. Je vais y rester 11 ans et la seule infidélité que je vais faire à la Champagne-Ardenne, c'est 2 ans que je vais aller passer en Moselle ces 2 dernières années avant d'être appelé à prendre la direction du lycée Frédéric Ozanam.
Alors le lycée Jean 23, c'est votre plus long parcours entre guillemets.
Oui, tout à fait. J'ai fait 11 ans dans cet établissement-là. C'était également un très très bel établissement et puis un projet dans lequel il y a eu un énorme travail de remise aux normes de l'immobilier. Je suis parti après avoir terminé 4 ans de travaux, vraiment quelque chose d'extrêmement dense.
Alors, désormais, vous êtes chef d'établissement au lycée Frédéric Ozanam de Chalon-Champagne. Parlez-nous un petit peu de cet établissement. Qu'est-ce que vous avez appris à votre arrivée ?
Je vais vous dire que j'ai pas appris grand-chose parce que je connaissais déjà bien le lycée Frédéric Ozanam, puisque encore une fois, j'ai fait 18 ans de direction en Champagne-Ardenne et le lycée Ozanam a le mérite d'être au cœur de la Champagne-Ardenne et donc beaucoup de réunions se tiennent au lycée Frédéric Ozanam et se sont tenues au lycée Frédéric Ozanam et du coup, je connaissais très très bien les anciens chefs d'établissement qui ont dirigé Frédéric Ozanam. Je reste en contact par exemple avec madame Vanet qui a dirigé longtemps le lycée Ozanam et voilà, donc je retrouve le lycée Ozanam.
Alors vous le retrouvez en compagnie de Marc Thomas qui rejoint en tant que président.
Oui, tout à fait. Marc Thomas a été nommé président de l'organisme de gestion de Frédéric Ozanam. Il a été élu au début de l'année 2023. Et c'est vrai que c'est une forme d'opportunité d'avoir un nouveau président avec un nouveau chef d'établissement. C'est-à-dire que ça permet de créer une forme de dynamique au sein de l'établissement. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant.
Comment s'est passée cette rentrée scolaire au lycée Frédéric Ozanam de Châlons-Champagne-Héry-Persan?
Relativement sereine.
Sereine.
Relativement sereine. On est stable au niveau des effectifs. Globalement, c'est une rentrée où, comme toujours, faut mettre les choses en place. Mais globalement, pas de gros dossiers qui posaient problème.
Selon le SNES FSU, il manque au moins un enseignant dans 48% des collèges et des lycées. Pour vous, Éric Persan, aucun souci du côté du lycée Frédéric Ozanam?
Oh, je ne dirais pas aucun souci. Très clairement, on a fait notre rentrée avec l'ensemble de nos enseignants. C'est-à-dire que j'étais pas concerné par les 58%. Mais ceci étant, on sent de manière très très claire que c'est extrêmement tendu et c'est une vraie prouesse de pouvoir constituer une équipe au complet pour aborder la rentrée scolaire. On sent bien qu'il y a une vraie question sur le recrutement des enseignants aujourd'hui.
Alors concernant l'évolution de l'enseignement, si je peux dire Éric Persan, on se rend compte que la région Grand Est fournit désormais des équipements, des ordinateurs au lycée. On a certains collèges qui fournissent désormais des tablettes. Vous de votre côté au lycée Frédéric Ozanam, comment ça se passe?
Alors nous, on est concernés par la mise à disposition des ordinateurs 4.0 du conseil régional.
Oui.
J'ai envie de dire que c'est pas une révolution. C'est pas une révolution de l'enseignement. C'est-à-dire que c'est un outil supplémentaire qui est offert aux enseignants. Je pense que dans une classe, le pédagogue reste l'enseignant. C'est lui qui va trouver l'intérêt que peut représenter le fait d'avoir un ordinateur pour l'élève. Et je ne pense pas qu'il faille considérer l'ordinateur comme l'alpha et l'oméga de l'enseignement dans les années qui viennent. Je maintiens, c'est vraiment un outil supplémentaire qui est à la portée des enseignants. Les jeunes y sont très sensibles. Ça permet quand même d'aborder des sujets de manière différente.
Sans oublier les fondamentaux.
Sans oublier les fondamentaux. C'est pour ça que je dis que c'est un outil supplémentaire. C'est-à-dire que tout ne passera pas par l'ordinateur. Après, j'ai vécu, alors j'étais au lycée Jean 23 à ce moment-là, l'arrivée du lycée de l'ordinateur 4.0, c'était relativement discuté à ce moment-là. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est passé par le Covid, et avec des élèves qui étaient à distance de l'établissement. Et sincèrement, cet ordinateur nous a quand même rendu vraiment service, parce qu'on n'avait pas à se soucier de savoir si les jeunes avaient un ordinateur ou pas, s'ils étaient obligés de partager avec leurs parents. Ils avaient leur ordinateur, et ça nous a quand même permis de garder le lien avec les jeunes à ce moment-là.
Éric Persan, chef d'établissement, nouveau chef d'établissement au lycée Frédéric Ozanam de Châlons-Champagne avec nous aujourd'hui sur RCF. Parlons d'un sujet d'actualité, triste actualité, qui ne cesse de rebondir chaque semaine, c'est le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire qui n'épargne personne, non pas le lycée Frédéric Ozanam, Éric Persan.
Non, je pense qu'il ne faut surtout pas considérer qu'un établissement est à l'abri de ce phénomène. C'est un phénomène de société, c'est un phénomène qui existe. Je dirigeais encore l'année dernière un ensemble scolaire qui commençait à la petite section de maternelle jusqu'au bac plus 5. Ce sujet était extrêmement sensible sur le collège. C'est vrai qu'au niveau du lycée, on a l'impression que c'est un peu moins sensible. Les jeunes sont un peu plus âgés. Il y a eu tout un travail de sensibilisation fait pendant une grande partie de leur scolarité. Mais très sincèrement, je ne me permettrai pas de dire qu'un établissement, quel qu'il soit, puisse être à l'abri de ce phénomène. Et ça nécessite vraiment une attention de tous les instants, parce que on va avoir des signaux, alors parfois des signaux forts, c'est des parents qui nous préviennent directement, mais parfois aussi des signaux faibles, et ça c'est parfois plus compliqué, c'est-à-dire il nous faut vraiment être très attentif à l'attitude de jeunes dans l'établissement.
C'est quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à votre expérience, c'est quelque chose que vous serez très vigilant.
Ah oui, oui, tout à fait. Je pense qu'à partir du moment où un jeune commence à parler de harcèlement ou une famille commence à parler de harcèlement, il faut absolument pouvoir l'écouter, voir tout ce qu'on peut mettre en place pour savoir ce qu'il met derrière le terme harcèlement et accompagner ce jeune et cette famille. Et je pense sincèrement, dans un établissement comme Ozanam, avec le projet d'établissement d'Ozanam qui est quand même porté une attention à tous les jeunes qui nous sont confiés, je pense qu'on a les moyens pour faire le nécessaire. À une époque, le harcèlement scolaire se passait dans les écoles. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le harcèlement scolaire, ça se passe aussi pour partie en dehors de l'école. Le jeune n'est jamais à l'abri avec les réseaux sociaux,
d'être
contacté à n'importe quel moment de la journée. Et c'est ça qui est compliqué.
Merci Eric Persan, merci Christopher Fossen. Vous étiez ensemble depuis Châlons-en-Champagne. Le rendez-vous pour le 18-19, c'est demain mardi, 18h10. Très bonne soirée, toujours en compagnie de RCF.